France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Le face-à-face manifestant-gouvernement qui se prépare. Plus de 80 000 policiers et gendarmes dans les rues demain pour la journée de mobilisation. Le détail à suivre. Nous serons à Lyon avec des usagers des TER qui s'apprêtent à faire 100. Et à Matignon, où les socialistes sont ressortis sur leur faim ce matin de leur rendez-vous avec le Premier ministre.
Nous l'avons dit très clairement que si il était là pour refaire François Bayrou, les mêmes causes produiraient les mêmes effets et que nous censurerions dès la discussion de politique générale.
À suivre encore l'offensive israélienne qui s'étend à Gaza, la Commission européenne veut des sanctions contre des ministres israéliens. Un contrôleur aérien qui s'endort pendant son service à l'aéroport d'Ajaccio, le succès du MMA chez les plus petits, reportage dans un instant, et puis les utilisateurs du logiciel Windows 10 qui risquent de devoir changer leur PC. À partir de 13h30, comment soigner les enfants? Question au cœur du film L'intérêt d'Adam en salle aujourd'hui. Une œuvre bouleversante qui nous plonge à l'hôpital dans un service pédiatrique. Sa réalisatrice Laura Vandel est avec nous. 01 45 24 7000 pour vos questions. Et les autres sorties ciné de la semaine, ce sera avec Alexis Demeyer. 13h45, l'histoire d'Ousmane Dembélé, le gamin d'Evreux, prétendant au Ballon d'Or. Aujourd'hui, Didier Deschamps.
Il y a certains qui ont des parcours classiques, mais il y en a d'autres, heureusement, qui arrive au plus haut niveau. Il mérite cette récompense.
Le club de Dembélé, le PSG, fait son entrée ce soir en Ligue des Champions. 13h50, c'est la France. Pourquoi l'artiste japonais Okuzai a fasciné les Nantais ces dernières semaines? Ce sera Eric Fotorino du 1 Hebdo. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. L'humoriste Léopold Lemarchand demande le rappeur This Is à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Quel sport pour les enfants? C'est l'une des questions du mois de septembre. Et en cette rentrée, le sport qui a le vent en poupe, c'est le MMA, les arts martiaux mixtes. Les stars remplissent les salles. Résultat, le nombre de licenciés a bondi de 300% en un an. Et les plus jeunes accrochent, mais dans une version beaucoup moins violente que celle des pros, pour les garçons et pour les filles. Vous l'avez constaté dans un club d'Avignon hier soir, Yvan Planteil.
Oui, les coups sont retenus, les balayages également.
Ta jambe gauche, elle va derrière sa jambe. On va doucement comme ça.
Louisa fait tomber Maria en l'accompagnant au sol. Toutes les deux ont 10 ans. Cette dernière a tanné ses parents pour l'inscrire cette année.
J'ai galéré de convaincre ma mère. Elle trouve que c'est un peu trop violent, mais vu que je fais de la boxe, du coup, elle a accepté.
Pour ces deux avignonnaises qui chaussent les gants, c'est l'envie de se dépenser, de suer qui prime.
En fait, c'est violent, mais ça défoule. En sachant qu'on va pas le faire aux autres. S'il le faut, on va le faire. Mais
c'est de la réponse.
Voilà. Si jamais on nous embête dans la rue, parce que souvent, il y a des gens qui sont pas des bonnes intentions, bah, comme ça, au moins, on pourra se défendre.
Alors ici, la très grande majorité des jeunes licenciés sont des garçons, souvent influencés par leur environnement familial. Julien est le papa d'Hugo qui débute cette année.
Je le regarde souvent à la télé. Il essaie de le regarder aussi. J'essaie de pas trop non plus lui montrer parce que ça reste quand même assez violent. Donc voilà, mais bon, chez les enfants, l'approche est quand même beaucoup plus souple.
L'entraîneur de MMA, Mohamed, estime même que ce sport véhicule de bonnes valeurs.
C'est merveilleux, on est là pour leur donner un cadre aussi, pour qu'ils comprennent un peu la vie, le respect intergénérationnel aussi, le respect de la salle. C'est des choses qui se perdent.
L'an dernier, le dojo du centre comptait une cinquantaine de licenciés, dont les deux tiers sont de jeunes enfants ou des adolescents.
Reportage ici Vaucluse. Des entraînements sportifs, beaucoup seront annulés demain, à l'image d'un pays qui se prépare à une journée au ralenti, conséquence du mouvement de grève intersyndicale lancé contre les projets de budget du gouvernement. De très nombreux cortèges demain, bonjour Emmanuel Leclerc.
Bonjour.
Comment leur sécurité sera-t-elle assurée? Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, va mobiliser autant de gendarmes que la semaine dernière alors qu'on annonce davantage de manifestants dans les rues. Pour quelle raison?
Bien parce que le dispositif de 80 000 agents avait été déjà conçu la semaine dernière pour ce qui est annoncé demain. Des cortèges massifs avec infiltration d'activistes, formation de black bloc, en plus de tentatives de blocage de sites stratégiques sensibles à travers tout le pays. Là, on serait bien cette fois réellement sur un scénario vu par le passé, sur des 1er mai, lors de la loi travail, réforme des retraites et gilets jaunes, bien sûr. Depuis 48 heures, les analystes du ministère de l'Intérieur savent que les plus radicaux, des militants anticapitalistes, seront cette fois bien là. Rien que pour Paris, par exemple, c'est un noyau de fichiers chez S qui tourne autour de 300 personnes dont l'objectif est de coaliser des manifestants prêts à en découdre à la moindre charge policière. On connaît désormais le ratio, confié hier une source sécuritaire. Le 1er mai dernier, c'était 30 000 manifestants dans la capitale. Le Black Bloc est monté à 2 000. Si le cortège monte à 60 000 manifestants, ce sera quasiment proportionnel. Ça risque de doubler aussi.
Et les lycéens sont attendus particulièrement nombreux.
Alors là, c'est l'inconnu de l'équation. Comme souvent, la capacité des groupuscules les plus violents à rameuter les lycéens, voire les collégiens, comme Chirac Hanon confiait ce matin une autre source policière. Et si ça marche, ces mouvances veulent faire monter la pression jusqu'à dimanche pour un acte 3 destiné directement à Emmanuel Macron, 21 septembre, date anniversaire de la chute de Louis XVI, 1792.
Merci de nous avoir rafraîchi la mémoire, Emmanuel Leclerc. Les autorités anticipent donc une forte mobilisation demain, notamment dans les transports publics. Un train sur deux en circulation pour les intercités, un sur trois pour les TER. Alors on s'organise. Christophe Vincent s'est rendu en gare de Lyon-Perrache.
Il devait se rendre à Vienne, Saint-Étienne, Roanne ou Bourg-en-Bresse en TER. À Lyon-Perrache, certains cogitent, d'autres ont anticipé.
Je prends le TER pour aller en cours. Soit j'essaye de dormir chez un ami, soit on est obligé de rester à la maison. C'est assez paralysant.
Je vais voir comment on va s'organiser. Peut-être venir en voiture, mais ça va être compliqué.
Prévu de prendre le train, mais malheureusement, je vais devoir prendre un taxi.
Je comptais aller à Nantes jeudi, donc j'ai dû reporter mon train pour le lendemain. C'est compliqué.
De nombreux voyageurs soutiennent les revendications, mais critiquent le mode d'action.
On repoussera le lendemain. Bon, c'est pas grave non plus, on va pas travailler, on est à la retraite.
Non, je comprends. Je suis dans le médical où un énorme congrès européen est organisé. La plupart de nos clients devaient venir et ils ont annulé leur voyage à cause des grèves dans les transports en commun. Donc économiquement, ça reste quand même une énorme perte pour les petites PME. Les médecins font grève et pourtant ils bossent, parce qu'ils n'ont pas le choix. Il y a une façon de faire des grèves, mais c'est un peu toujours les mêmes.
Je ne vais pas pouvoir aller en cours, mais la grève est nécessaire.
Je trouve ça dommage de s'en prendre à d'autres concitoyens, pour certains au travail, mais pour les revendications, je les comprends totalement et je n'ai pas de mal avec ça du tout.
Un autre usager soupire, deux grèves en 8 jours, j'espère que c'est la dernière.
Beaucoup de pharmacies fermées également demain pour dénoncer la réduction des remises commerciales sur les médicaments génériques, mesure qui vise à diminuer les dépenses de santé, les finances publiques. Justement, voilà l'un des dossiers qui était sur la table de Matignon ce matin, où le Premier ministre Sébastien Lecornu recevait donc les représentants du Parti Socialiste. Discussion pour les convaincre de ne pas censurer son futur gouvernement. Bonjour Sonia Gobry.
Bonjour.
Vous êtes au siège du Premier ministre à Paris et cette première rencontre n'a pas été fructueuse.
Aujourd'hui, c'est un round d'observation, avait prévenu un ténor du PS avant ce rendez-vous ici à Matignon, qu'il compare donc à un combat de boxe. Et en effet, pas d'avancée après cet entretien qui a duré près de 2 heures. Les socialistes ont répété leur exigence, suspension de la réforme des retraites, mesures pour le pouvoir d'achat ou encore la taxe Zuckmann sur les ultra-riches. Et pour défendre leur contre-budget, les représentants du PS sont venus avec un sondage commandé par le parti. Leurs propositions y sont largement plébiscitées, y compris par les sympathisants macro et LR. Mais en face, Sébastien Lecornu n'a pas dévoilé ses cartes. De quoi frustrer le patron des socialistes, Olivier Faure.
Pour l'instant, nous sommes restés sur notre faim. Et donc, je ne vais pas vous déclarer ici ni que nous avons trouvé un Premier ministre compréhensif, ni qu'il était prêt à avancer sur quelque sujet que ce soit. Nous n'en savons rien.
En attendant d'en savoir plus, Olivier Faure lance plusieurs avertissements. Pour le budget, il ne s'agira pas de couper la poire en deux entre la copie de François Bayrou et celle des socialistes. Et puis, il s'inquiète des gages que le Premier ministre pourrait donner aux Républicains.
Nous ne voulons pas non plus voir revenir sur la table une loi immigration telle qu'on l'a connue il y a maintenant 2 ans. Donc on est dans une situation où on évaluera nous-mêmes, à l'issue de ce processus, ce qu'il a à nous dire. Et en fonction de ce qu'il aura à nous dire, nous verrons ce que nous faisons.
Deux options, la discussion ou la censure. Des cadres du PS qui ont le sentiment d'avoir été humiliés, roulés dans la farine par François Bayrou préviennent. Chat échaudé ne craint pas l'eau froide, quitte à provoquer une dissolution qui ne jouerait pas forcément en leur faveur.
Sonia Gobry avec les moyens techniques de Geoffrey Marianne. À l'agenda également du Premier ministre aujourd'hui, le Rassemblement National, Marine Le Pen et Jordan Bardella reçus à 16h. Il sera là aussi question de la contribution des plus fortunés au futur budget. Faut-il les taxer davantage ? Lise Roseveille, le RN est embarrassé par cette question.
Sur les plateaux télé, Marine Le Pen le répète, la taxe Zuckmann est inefficace.
injuste et même dangereuse. C'est pour amuser la galerie gauchiste, ajoute-t-elle en privé. Le principal problème pointé par le RN, cet impôt concerne aussi les biens des entreprises. Une position similaire à celle de la Macronie, mais difficile de l'assumer. Le parti revend donc sa propre solution, l'impôt sur la fortune financière. Une taxe qui viserait les grandes fortunes, mais en excluant les résidences principales et les biens immobiliers professionnels. Parce que quand il s'agit de taxer les plus riches, le RN marche sur des œufs, tiraillé entre satisfaire son électorat populaire et faire les yeux doux au patronat. Le sujet fait débat en interne entre ceux qui veulent absolument se démarquer de la gauche et ceux qui considèrent qu'il faut surtout asseoir sa base. L'électorat mariniste verrait-il d'ailleurs d'un bon œil une opposition franche à la taxe Zucman ? Un cadre du parti répond gêné. Ça ne vous a pas échappé qu'on s'est abstenu à l'Assemblée nationale.
Lise Roseveil pour cet éclairage. Alors on le voit, depuis quelques jours, les discussions se cristallisent autour d'une proposition, cette taxe Zucman, taxée à hauteur de 2% par an les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Cela concernerait, selon cet économiste, 1800 foyers fiscaux. Et elle est au cœur, cette idée, d'une intense bataille de communication depuis quelques jours. Bonjour Mathilde Dehimy.
Bonjour Jérôme.
Les pour et les contre se rendent coup pour coup.
Et le meilleur promoteur de la taxe Zucman, c'est Gabriel Zucman lui-même. On a peu l'habitude de voir autant un économiste sur les différents plateaux. Ce matin encore, Le Figaro dresse son portrait sur deux pages intitulé « Taxe Zucman, le danger qui menace l'économie française ». Bataille de communication donc sur cette taxe dont on parle depuis des années. Mais le sujet décolle en cette rentrée. Un proche de Gabriel Zucman, l'économiste Thomas Piketty, dramatise les enjeux sur BFM.
Cette question d'impôt, c'est d'abord une question de souveraineté. C'est-à-dire qu'un pays qui refuse de faire payer à ses plus riches citoyens le même impôt que les classes moyennes et les classes populaires, qui renonce à toute possibilité, et c'est un pays qui va dans le mur. Parce que ça veut dire que vous faites perdre la confiance au reste de la population.
À l'inverse, c'est un épouvantail pour le MEDEF, le RN, la droite, une partie de la Macronie qui rejette son applicabilité, notamment pour les entrepreneurs de la tech, dont les valorisations d'entreprises sont surtout théoriques, à tel point que le patron de Mistral, Arthur Mensch, a lui aussi dû s'exprimer hier soir sur France 2.
On risque de décevoir les polémistes. Moi, je suis plutôt convaincu qu'il faut plus de justice fiscale en France. Il y a un sujet de comment on écrit la loi pour que ça fonctionne. Il y a toujours une tension entre la redistribution dont on a besoin et l'innovation.
Les économistes, eux aussi, ont beaucoup pris position, ralliement parfois surprenant d'anciens tenants de la politique de l'offre convertis à la taxation des plus riches. Même certains patrons reconnaissent un peu forcé qu'il y a sujet. La question est donc de savoir sur quel curseur on travaille et si cela s'appellera encore la taxe Zucman.
Décryptage signé Mathilde Dehimy. Les dirigeantes de France Télévisions et de Radio France s'expliqueront cet après-midi devant l'Arcom, régulateur de l'audiovisuel, après la diffusion d'une vidéo volée la semaine dernière montrant Thomas Legrand et Patrick Cohen de France Inter lors d'un dîner et lors d'un déjeuner avec deux responsables socialistes. France Télévisions et Radio France dénoncent aujourd'hui une campagne de dénigrement des médias du groupe du milliardaire Vincent Bolloré, dont CNews et Europe 1. Courrier transmis à l'Arcom.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Cette fois, c'est vers le sud de la bande de Gaza que des centaines de milliers de Palestiniens doivent fuir l'offensive au sol de l'armée israélienne vers la ville de Gaza, qui dit avoir frappé cette armée à 150 reprises depuis hier et qui ce matin a annoncé l'ouverture d'une voie de passage temporaire pour accélérer l'évacuation des habitants. Gaza brûle, avait commenté hier matin le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, propos avec lesquels l'ambassadeur d'Israël en France a pris ses distances ce matin sur France Inter. Joshua Zarka.
Le gouvernement ne s'en réjouit pas. Vous savez, ça fait 2 ans que cette guerre terrible continue. On ne l'a pas demandé, cette guerre. Elle nous a été imposée. Et il faut la terminer. Il faut la terminer parce que nous sommes fatigués, les Palestiniens sont fatigués, nos otages sont encore entre les mains du Hamas, ils ne sont pas libérés et le Hamas n'a aucune intention de les libérer. Et donc, il faut terminer cette guerre et pour la terminer, il faut rentrer là où il le faut.
Pourquoi utiliser ces mots « Gaza brûle » avec ce sentiment qu'un ministre s'en réjouit ?
Les mots ne sont pas toujours très bien choisis par nos politiciens. Voilà.
Joshua Zarka au micro de Benjamin Duhamel. Alors qu'en dit la rue israélienne ? Soutient-elle son Premier ministre ? Reportage Michel Paul à Jérusalem.
La guerre à Gaza, c'est le sujet qui divise profondément les Israéliens. Des divisions chez les proches d'otages, au sein des familles de réservistes. Akiva est étudiante dans un institut talmudique à Jérusalem.
J'espère que le gouvernement prend les bonnes décisions dans cette opération. C'est vraiment important que le gouvernement détruise l'organisation terroriste Hamas. Ils détiennent les otages. Et aussi pour les habitants de Gaza. Ils se fichent de tout, de la vie des Juifs et des Palestiniens.
Face à la résidence du Premier ministre israélien, Talia, elle, arbore la photo d'une enfant gazaoui qui portait le même prénom qu'elle et qui a été tuée par un bombardement israélien.
Je n'ai pas de mots pour décrire l'horreur de la situation. Notre pays et notre société sont devenus des monstres. Et rien de ce que je peux faire n'est suffisant face aux atrocités que nous provoquons à Gaza.
Un appel à la fin de la guerre relayé par le caricaturiste Michel Kishka de Cartooning for Peace.
Il suffirait d'exercer des pressions sur le Hamas pour qu'il libère nos otages et sur Israël pour que le prix de la libération de ces otages, ce soit 1. La fin de la guerre, 2. Le retrait des troupes israéliennes de Gaza. C'est une équation d'une simplicité d'école primaire.
Et en attendant, l'offensive militaire à Gazaville se poursuit. Selon les militaires, elle devrait durer plusieurs mois.
Reportage Michel Paul à Jérusalem. Ce matin, le pape Léon XIV a dénoncé le déplacement forcé des Palestiniens quand la Commission européenne, elle, dès hier, a promis de nouvelles sanctions contre Israël. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Fabien, les 27 ne sont pas tous d'accord. Quelles sont les lignes de partage?
Alors d'un côté, il y a notamment la France et l'Espagne qui mènent depuis plusieurs mois le camp des États favorables aux sanctions contre Israël, sanctions commerciales contre l'État hébreu et sanctions individuelles contre des colons ou même deux ministres d'extrême droite, celui des finances, Bezalel Smotrich, et son collègue à la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. Les pays du Benelux sont également en train d'adopter de leur côté des sanctions similaires. Mais le gros morceau, c'est l'Allemagne, car pour des raisons historiques, le plus grand pays d'Europe n'a jamais raté une occasion d'afficher son soutien à l'État d'Israël depuis sa fondation au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne a déjà annoncé suspendre certaines livraison d'armes à l'État hébreu. Les pays en faveur de sanctions contre Israël espèrent maintenant qu'elle ira plus loin, d'autant qu'elle pourrait également entraîner dans son sillage l'Italie, qui elle aussi fait de la résistance. Ce sont les deux grands pays qui fédèrent autour d'eux pour le moment une minorité de blocage, aux côtés notamment de la Hongrie du très droitier Viktor Orban.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles. Le château de Windsor, c'est le top, non? Donc ça va être chouette. Voilà comment Donald Trump envisageait en début de semaine sa visite d'État, sa deuxième au Royaume-Uni, même s'il y est très impopulaire. Windsor, le président américain y est reçu aujourd'hui par le roi Charles III qui a mis les petits plats dans les grands. Bonjour Gaëlle Joly.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Londres. Donald Trump est en train d'arriver.
Oui, ça y est, Jérôme, le couple présidentiel vient à l'instant d'arriver en hélicoptère blindé dans les jardins du château de Windsor, accueilli par le prince William et la princesse de Galles sous une météo bien anglaise, de la pluie, du vent, mais en fanfare au rythme des cornemuses de la garde royale, costume noir pour Donald Trump, chapeau chic pour Mélania. Ils doivent monter à bord d'une calèche royale aux côtés du roi et de la reine, mais le cortège restera à l'intérieur du domaine, surveillé par les forces armées britanniques et protégé par des clôtures de sécurité. Un bouclier d'acier installé devant le château avec des patrouilles de drones, dispositif de sécurité exceptionnel pour le président américain qui va rester loin de la foule et surtout loin de la capitale britannique où des milliers de manifestants anti-Trump doivent battre le pavé tout l'après-midi jusqu'au Parlement. Après un déjeuner en privé avec la famille royale, Donald Trump déposera des fleurs sur la tombe de la reine Elizabeth. Il aura l'unique privilège de passer en revue trois régiment de la garde royale avant d'assister à un défilé aérien. La journée se terminera autour d'un banquet avec plus de 150 invités. Le roi et le président américain doivent prononcer un discours ce soir.
Gaëlle Joly, correspondante d'Inter au Royaume-Uni. Mon mari a été empoisonné, voilà ce qu'affirme aujourd'hui Yulia Navalnaya, la veuve du principal opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny, mort en prison en février 2024. Elle dit s'appuyer sur des analyses effectuées par des laboratoires occidentaux à partir d'échantillons biologiques collectés sur son époux après sa mort. Pourquoi le joueur de rugby de Rouen, deuxième division, Jordan Michalet, a-t-il mis fin à ses jours en janvier 2022? Eh bien, selon la justice, il s'est suicidé à cause de son travail, donc à cause du rugby professionnel. Décision du tribunal judiciaire de Rouen, rendue le 11 juillet dernier, mais qu'on apprend qu'aujourd'hui, c'est l'avocat de la femme du joueur qui vous l'a confirmé, Charlotte Coutard.
C'est une reconnaissance des problèmes que rencontrait Jordan Michalet. Un lien de causalité est établi entre son suicide et la pression qu'il subissait au travail, déclare l'avocat de Noélie Michalet. Pour rendre cette décision, le tribunal de Rouen s'est appuyé sur le témoignage de coéquipiers du joueur. Il raconte sa fatigue mentale, la pression subie à cause des défaites. Le RNR luttait à l'époque pour son maintien en Pro D2 de rugby. La fatigue physique due à l'enchaînement des matchs. Le médecin du RNR lui avait prescrit un traitement anxiolytique 8 jours avant son suicide. Pour la justice, il s'agit donc bien d'un accident du travail. La mort du rugbyman avait provoqué une vague d'émotions partout en France. Des hommages lui avaient été rendus avant toutes les rencontres de Pro D2 le week-end suivant. Et le RNR avait reversé l'intégralité des recettes du match contre Carcassonne à la famille de Jordan Michalet.
Précision ici Normandie. C'est la grande bascule informatique du moment pour tous les PC. Bascule du logiciel Windows 10 vers Windows 11. Problème pour des millions d'ordinateurs les plus anciens. Microsoft arrête les mises à jour de sécurité, donc vous ne pourrez plus vous servir de vos PC sans être attaqué par des virus. Bonjour Adrien Serrière.
Bonjour Jérôme.
Ça concerne des particuliers mais aussi des services publics et des collectivités.
Oui, 400 millions d'ordinateurs dans le monde sous Windows 10 ne sont pas compatibles avec Windows 11. Pour rester protégé, deux options, acheter un nouvel ordinateur ou payer un abonnement d'un an pour rester sous Windows 10. Un scandale pour halte à l'obsolescence programmée. Flavie von der Scher est responsable plaidoyer de l'association.
C'est soit payer ou payer. Nous, on considère que c'est un hold-up numérique vraiment énorme. Et c'est pour ça qu'on appelle à signer la pétition qu'on a lancée avec une vingtaine d'autres organisations, non-tax-windows.fr. On a encore un peu moins d'un mois pour faire changer Microsoft d'avis.
Se séparer d'ordinateurs qui fonctionnent, il y a déjà l'aberration environnementale et puis le coût financier. Certaines entreprises ou administrations vont devoir débourser plusieurs millions d'euros. Mais face à Microsoft, la marge de manœuvre est mince et pas question de jouer avec la sécurité informatique. Voilà la situation par exemple pour France Travail, dont Jean-Christophe Chaussat est directeur du développement durable.
C'est hallucinant la somme d'argent qui va être dépensée, tout simplement parce que Microsoft a décidé de ne pas maintenir sa version. France Travail, c'est une organisation purement sociétale. Cet argent, il doit être dépensé autrement que sur de la tech, quoi.
Alors certaines mairies, comme à Lyon, ont annoncé tourner le dos à Microsoft et remplacer progressivement leurs outils informatiques. Mais les alternatives sont peu nombreuses. Et pour les particuliers, la réalité, c'est que les plus précaires seront les plus exposés au virus.
Adrien Serrière, voilà qui va relancer le débat sur les contrôleurs aériens et leur respect des consignes de sécurité. Lundi soir, à Ajaccio, un vol Air Corsica en provenance de Paris-Orly a dû patienter plus de 45 minutes en l'air avant de pouvoir se poser. Explication, la tour de contrôle ne répondait plus. Bonjour Sarah Mansoura.
Bonjour.
Le contrôleur aérien s'était endormi.
Et oui, il était seul à ce moment-là. Son collègue étant en pause réglementaire, nous confirme la Direction Générale de l'Aviation Civile. Les pilotes ont donc joint l'aéroport de Bastia, qui lui non plus n'a pas réussi à joindre Ajaccio. Alors bien sûr, il existe des procédures en cas d'accident, de malaise. Parmi les scénarios envisagés, celui de faire atterrir l'avion en auto-information. C'est une procédure plutôt rare pour l'aviation civile, mais qui permet d'atterrir sans contrôleur aérien et de parvenir par un autre biais à allumer les feux de piste à distance. Finalement, pas besoin. Les différentes alertes ont fonctionné, ce qui a permis l'intervention des pompiers de l'aéroport pour donc réveiller ce contrôleur assoupi. Ces tests toxicologiques sont négatifs. Il devait quand même aujourd'hui voir un médecin avant de se voir peut-être signifier une procédure disciplinaire. Le BEA était ce matin en train d'évaluer l'incident et ne nous a pas encore confirmé s'il ouvrait ou non une enquête. L'avion, en tout cas, atterrit en toute sécurité. Le carburant est resté suffisant et les passagers n'ont, selon la DGAC, pas été mis en danger.
Happy end, donc. Donc merci Sarah Mansoura. Le cinéma.
Le monde se divise en deux catégories.
Hasta la vista, baby.
Toi, tu creuses.
Splendid. Et oui, on a un nouvel habillage. Bonjour Alexis Demeyer.
Bonjour.
Alexis, on commence par votre coup de cœur. Cette semaine, c'est Oui, film israélien en prise avec l'actualité.
Le cinéaste Nadav Lapid, qui vit à Paris depuis plusieurs années, retourne à Tel Aviv, sa ville natale, pour raconter l'après 7 octobre. L'intrigue se concentre sur deux personnages, un pianiste de jazz et sa femme, danseuse, qui viennent d'avoir un enfant. Pour gagner sa vie, le couple se produit dans des soirées jet-set, proposant des performances artistiques, mais aussi des prestations sexuelles. En divertissant hommes d'affaires, ministres et hauts gradés, ces deux citoyens israéliens disent oui. En d'autres termes, ils ne s'opposent pas, ils ne résistent pas à leur leur gouvernement en pleine guerre à Gaza. Brillant, choquant, étourdissant, c'est un grand film que nous offre Nadav Lapid. Mais au printemps dernier, le comité de sélection du Festival de Cannes l'avait recalé officiellement car il n'était pas au niveau. Avec le recul, ça ressemblait plutôt à un refus d'obstacle.
Vous avez été moins convaincu par Les Tourmentés de Lucas Bellevaux.
Le réalisateur belge adapte ici son propre roman paru en 2022, l'histoire d'un ancien légionnaire devenu SDF à qui une multimillionnaire va faire une proposition bien sordide.
Je vous propose d'être mon gibier pendant un mois. Si à la fin de ce mois vous êtes encore vivant, l'argent sera pour vous. Si je vous ai tué avant, on le donnera à votre famille. Est-ce que ça vous tente ?
La bonne idée du film, c'est de prendre à contre-pied le spectateur, esquivant habilement la promesse du film de chasse à l'homme pour privilégier le thriller psychologique. Mais Lucas Bellevaux manque de précision, tant dans son écriture que dans sa direction d'acteur, dans un projet qui nécessitait au contraire un sens du détail machiavélique. Les séquences oniriques et les flashbacks ne sont par exemple pas du tout convaincants. On sauvera tout de même Ramzi Bedia, impeccable et qui prouve une fois encore son talent pour les rôles dramatiques.
En salle également cette semaine, un documentaire musical intitulé Wu-Tang Experience.
Ah oui, quel plaisir de découvrir sur grand écran les prestations survoltées des membres du mythique groupe de rap new-yorkais. Le film se concentre sur le concert en plein air donné en 2021 à Red Rocks, Colorado, par cette dream team du hip-hop venu souffler sa 30e bougie.
Every MC has a different style. That's Wu-Tang Clan. Words can't describe it. You have to experience it.
À grand renfort d'entretien, d'archives et d'extraits musicaux, Wu-Tang Experience nous permet de mieux saisir l'alchimie entre les différents rappeurs du clan, avec un chef d'orchestre charismatique et visionnaire, Reza, que j'ai eu la chance d'interviewer ce matin dans son hôtel parisien. Vous pourrez l'écouter dans nos journaux du soir, Jérôme. Petit teasing.
On sera au rendez-vous. Quoi d'autre en salle, Alexis ?
Demon Slayer, La Forteresse Infinie, première partie de la trilogie d'animation inspirée d'un manga japonais à succès. D'Halloway, film de science-fiction sur l'intelligence artificielle avec Cécile de France et la voix de Mylène Farmer. Nino, le premier long-métrage de la française Pauline Loquès qui évoque le combat d'un jeune homme contre un cancer. Et bien sûr, L'intérêt d'Adam, Jérôme.
Dont la réalisatrice Laura Vandel sera notre invitée dans quelques instants. Merci Alexis Demeyer. Avant de reparler de cinéma, je voudrais qu'on parte en forêt où les ceps se ramassent à la pelle en ce moment. Illustration en Lozère, Saïd Makhloufi y a pris la direction de Grandrieu avec son panier et son couteau. La cueillette est-elle bonne ?
Elle est très bonne.
Il y en a un beau là.
Et en moins d'une heure...
Là, regarde celui-là, il y en a un autre là.
Le panier...
Il se remplit.
Mais c'est pas grâce à moi, c'est grâce à Elisabeth Pajot. Elle m'a emmené dans un petit coin à elle qu'elle arpente depuis une vingtaine d'années. Elisabeth, c'est une professionnelle du cep.
Le cep, c'est magique. C'est très beau, c'est mystérieux. Et puis quand on est dans les bois, on est bien. Il y a le silence, il y a les oiseaux, il y a le calme, c'est reposant, voilà.
Alors là, on va passer par là, on va traverser, on va descendre en bas là.
Non mais là, il faut vraiment passer entre les branches.
J'en vois un. Ah, ça se mérite, oui, ça se mérite.
On peut dire, Elisabeth, que la saison du cep est lancée.
La saison du champignon est lancée, oui. Ça y est, ça fait une petite semaine que ça a commencé.
Oh, c'est magnifique ça, regarde. Tu vois, je t'ai dit, il faut regarder un peu partout. Allez, on continue, il n'y en a pas un autre là ?
Et c'est notamment lié à la météo des derniers jours.
Déjà, il faut de l'eau, il faut qu'il y ait de la chaleur, des températures, des bonnes températures. Comme aujourd'hui, il va faire une belle journée, normalement c'est propice à la pousse.
On partage la récolte, Elisabeth ?
Oui.
On fait 50-50 ?
Finalement, tu pars pas bredouille, toi.
On a fait une belle matinée.
Largement de quoi faire une belle omelette.
Le filou, reportage ici, Gare Lozère, 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léasson, à voir si elle est propice à la pousse des champignons. Puis à partir de 13h30, la réalisatrice donc de ce film, L'intérêt d'Adam, Laura Vandel, avec nous. Elle nous emmène dans un service pédiatrique. On parle de l'hôpital, mais on parle aussi de la protection de l'enfance. 01 45 24 7000 pour être avec nous. 13h45, le destin hors du commun du footballeur Ousmane Dembélé, prétendant au Ballon d'Or lundi prochain. Aujourd'hui, les mots du sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps. 13h50, c'est la France et c'est une chanson, Eric Fotorino et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Eric, on surfe la vague avec vous aujourd'hui.
Oui Jérôme, une drôle de vague qui a envahi, déferlé dans la ville de Nantes, au château des Ducs de Bretagne. C'est la vague d'Okuzai, le fameux maître de l'estampe. Et je vous dirai pourquoi ça a été un événement.
Et avec vous Frédéric, un humoriste.
Léopold Lemarchand, qu'on peut découvrir en ce moment sur scène dans son tout premier spectacle. Et avec lui, c'est le rappeur This Is que nous écouterons.
Un morceau qui parle de la mort, un sujet qui passionne Léopold Le Marchand.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel? Prise de poids rapide? Pieds et chevilles gonflés? Fatigue excessive? Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie. Radio France, partenaire de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine. Les 20 et 21 septembre, le ministère de la Culture vous invite à découvrir des monuments et sites remarquables exceptionnellement ouverts et à participer aux animations proposées partout en France. Tout le programme sur journeesdupatrimoine.fr.
France Inter, partenaire du Festival mondial des théâtres de marionnettes. Du 19 au 28 septembre, Charleville-Mézières, capitale mondiale des arts de la marionnette, vit au rythme du plus grand festival de marionnettes au monde. Laissez-vous émerveiller par la diversité des propositions artistiques programmées dans toute la ville. Pendant 10 jours, cet événement unique rassemble 150 000 festivaliers venus du monde entier. Le Festival mondial des théâtres de marionnettes du 19 au 28 septembre à Charleville-Mézières, un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec les cafés Malongo. Torréfacteur engagé depuis 30 ans dans le commerce équitable. Les petits producteurs font les grands cafés sur malongo.com.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Un temps de plus en plus ensoleillé et chaud.
Oui, le soleil est déjà généreux au sud de la Loire et de la Méditerranée au centre-est. Seuls quelques fins nuages élevés se font remarquer. Des nuages un peu plus épais viennent tout de même border les côtes orientales de la Corse. Et progressivement, le ciel va aussi bien s'éclaircir sur les pays de la Loire, la Bretagne, la Normandie, le bassin parisien et le Grand Est. En revanche, les nuages auront plus de mal à se morceler sur le Finistère, le Cotentin et entre les Hauts-de-France et le nord du Grand Est. Et puis il va faire de plus en plus chaud. Déjà cet après-midi, les températures vont faire un bond par rapport au maximal d'hier. Prévoyez 21 à 27 degrés sur une large moitié nord et 25 à 32, voire 33 degrés plus au sud. Et puis la chaleur va s'accentuer pour atteindre un pic vendredi. Il fera encore bien chaud samedi avant une dégradation orageuse pour dimanche.
Merci Sébastien Léas, Météo France.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Bonjour Laura Vandel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans ce 13-14. Vous êtes réalisatrice. L'intérêt d'Adam est votre second long métrage. Il sort en salle aujourd'hui. Nous sommes à l'hôpital, dans un service pédiatrique. Nous suivons l'infirmière en chef. C'est Lucie, incarnée par Léa Drucker. Elle soigne notamment le petit Adam qui souffre de malnutrition à cause de sa mère, Rebecca, jouée par Anna Maria Vartolomei. Mais il faut aider cet enfant avec sa mère et c'est toute la difficulté pour Lucie. 01 45 24 7000 pour vos questions, pour vos témoignages, si vous connaissez ces services pédiatriques si particuliers. Laura Vandel, c'est un film très juste que vous proposez, bouleversant aussi, rassurant aussi par beaucoup d'aspects sur le fonctionnement de nos services publics, de la justice, de l'hôpital. On va en parler ensemble. Je voudrais d'abord savoir s'il y a un lien peut-être avec votre précédent long métrage qui traitait de l'enfance. Là aussi, on parle de l'enfance, de la protection de l'enfance. Comment on soigne les enfants? Qu'est-ce qui vous a amené à ce cheminement-là?
Mais moi, j'ai l'impression que la façon dont on prend soin des enfants parle beaucoup de nos sociétés. Et puis je me dis aussi que ben, les enfants d'aujourd'hui sont les futurs adultes de demain. Donc voilà, je crois que c'est... En tout cas, c'est important pour moi de parler d'eux et de leur donner une place dans mes films. Mais là, je sentais que j'avais envie de partir de l'hôpital parce que finalement, c'est un microcosme,
oui.
Une institution avec différentes hiérarchies. Une différence de hiérarchie, pardon, et donc forcément une violence systémique. Et j'ai fait une immersion.
Vous connaissiez l'hôpital ou pas ?
Oui, je connaissais l'hôpital, déjà parce qu'en fait, ma mère travaillait dans un hôpital en tant que radiologue. Donc, de temps en temps, j'allais la voir quand j'étais enfant. Et puis, bon, forcément...
En Belgique.
J'ai moi-même été à l'hôpital. C'est un lieu autant qui me fascine, qui me fait terriblement peur. Donc, voilà. C'est...
Comme beaucoup d'entre nous, je pense. On est fasciné, oui. Mais on a peur aussi quand on est à l'hôpital. et vous avez fait cette immersion. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé ?
Mais j'ai eu énormément de chance parce que... Bon, déjà, je me demandais comment j'allais pouvoir accéder à cet hôpital. Et mon premier réflexe a été de contacter mon propre pédiatre de quand j'étais enfant, qui était retraité, mais qui m'a mis en contact avec la chef de service en pédiatrie dans un hôpital à Bruxelles qui s'appelle l'hôpital Saint-Pierre. Chef de service qui s'appelle Elisabeth Rubuffa, que je remercierai jamais assez parce qu'elle m'a fait, en fait, passer pour une stagiaire. Donc, j'ai pu observer autant en consultation.
Les patients vous ont pris pour une soignante ?
Voilà, enfin une stagiaire.
Une stagiaire, ouais.
Une stagiaire en observation. J'ai pu donc observer autant en consultation qu'aux urgences qu'en hospitalisation. Et en hospitalisation, ce qui m'intéressait, c'est l'aspect très quotidien. Et ce qui m'a bouleversée par-dessus tout, ben, finalement, c'est l'aspect social que tout ce personnel soignant doit gérer en plus que de l'aspect médical. Et finalement, ben, le rapport avec le parent et à quel point le rapport avec le parent peut être déterminant dans la guérison de l'enfant.
Vous aviez déjà commencé à écrire le film à ce moment-là ou pas du tout ?
Non, pas du tout.
Vous n'aviez pas d'idée d'où vous vouliez aller, de quelle pourrait être l'histoire ?
Pas du tout. C'est vraiment, je suis partie du lieu et après, un pédiatre notamment m'a raconté l'histoire d'une mère qui était persuadée de faire le bien pour son enfant et qui ne pouvait pas accepter qu'elle était la cause
des problèmes de son enfant.
Oui, et là, ça m'a aussi très fort touchée. Je me suis dit, forcément, il doit y avoir une détresse là derrière. Et voilà, c'est parti de là.
Et c'est cette histoire que l'on retrouve dans le film. Rebecca, c'est la maman. Adam, c'est le petit garçon. Et il ne veut pas se nourrir. Et sa mère explique en partie sa malnutrition. Je voudrais qu'on écoute un extrait du film quand intervient le personnage de Lucie, qui est donc joué par Léa Drucker, qui est l'infirmière en chef dans ce service.
T'as pas mangé, Adam ? Ils sont tout propres, t'es couvert.
Si, il a mangé.
C'est pas à vous que je pose la question. Adam, tu me réponds ? Qu'est-ce que t'as mangé ?
Je sais plus.
Vous lui avez pas donné, les couverts sont intacts. Pourquoi est-ce que vous faites ça ?
Parce que quand je vous dis qu'il a mal au ventre, vous refusez de me croire.
Mais arrêtez de lui dire que ce qu'on lui donne est mauvais, il aura plus mal au ventre. Ce que vous lui donnez, ça comble pas les besoins d'un enfant de 4 ans. Il a des carences, il a un retard de croissance.
Ah, si tu manges pas, tu vas pas guérir. Et tu risques encore de te casser quelque chose.
Extrait de ce film, l'intérêt d'Adam en salle aujourd'hui. Laura Vandel, elle se retrouve, Lucie, dans une situation très difficile parce qu'effectivement, il faut qu'elle arrive à faire comprendre à la mère d'Adam qu'elle doit le nourrir différemment. Et pour ça, elle a besoin d'elle. Elle ne veut pas séparer les deux.
Oui, exactement. Elle comprend que, en tout cas, elle comprend, elle ressent que cette mère est en perte totale de confiance, autant par rapport à son propre rôle de mère que par rapport à l'hôpital. Et voilà, le personnage de Lucie ressent que la première chose à faire, c'est essayer de redonner confiance à cette mère.
Elle a un million de choses à régler en même temps. Lucie, il n'y a pas qu'Adam qui est dans ce service de pédiatrie. Et à chaque fois, j'ai le sentiment qu'elle passe son temps à convaincre, à argumenter. Il y a tout un art de la parole aussi chez les soignants, en tout cas chez cette infirmière. J'ai l'impression que c'est presque une avocate que vous suivez.
Mais effectivement, c'est une des choses aussi que j'ai pu observer dans mes immersions. C'est essayer tout le temps d'être dans le compromis, effectivement, essayer de comprendre là où se trouve l'autre, sans juger. C'est vraiment un métier extraordinaire, à nouveau, comme je le disais, de la prise en charge médicale, mais tout l'aspect social aussi qui est extraordinaire et vraiment fascinant.
L'aspect social, c'est-à-dire qu'elle est obligée de prendre en compte l'ensemble de la vie de
exactement.
Ce petit garçon et de cette maman.
Oui, exactement. Mais finalement...
Il y a le papa qui n'est pas là, qui fait une apparition quand même, à force de l'appeler, il finit par venir, qui a refait sa vie. Il y a beaucoup d'autres choses que le médical.
Oui, et j'avais très très envie de ne pas poser un regard de jugement sur tous ces personnages. Pour moi, c'est très important aussi de ne pas apporter trop d'explications, parce que pour moi, c'est une manière d'enfermer le spectateur, et c'est important pour moi que le spectateur il puisse aussi projeter des choses sur sa propre histoire. Et à nouveau, moi je ne suis pas là pour expliquer les choses, mais plutôt pour poser des questions.
Questionner les limites, notamment la limite de la vie privée, notamment celle des patients. Est-ce que vous la posez ? Parce qu'elle va assez loin finalement, Lucie.
Mais c'est sûr que ce film pose la question effectivement des limites de l'institution, de nous en tant que personnes, les limites morales. Oui.
Les limites aussi de l'investissement. Les collègues de Lucie sont très inquiets et il y a cette phrase « tu vas trop loin, ne t'en occupe plus ».
Mais c'est quelque chose aussi que j'ai pu observer et me rendre compte quand j'étais faire mon immersion, c'est cette question des limites, jusqu'où aller, jusqu'où aider l'autre. Mais ça, c'est une question aussi qui me préoccupe dans mes précédents films, c'est vraiment jusqu'où aider l'autre.
C'est une question aussi à laquelle vous ont sensibilisé les soignants que vous avez rencontrés pendant votre immersion. Vous les avez sentis vraiment préoccupés de ça?
Oui, c'est vraiment une question très sensible à nouveau parce que y a tout l'aspect évidemment médical, administratif et de ce qu'ils me disaient, ce qui est compliqué, c'est de finalement où est la place de l'humain quand on est... nous sommes en train de courir pour essayer de faire son métier du mieux qu'on peut et qu'on se retrouve bloqué par le système, en fait.
Elle fait le tri avec l'extérieur. L'extérieur ne cesse de rentrer, les préoccupations de l'extérieur ne cessent de rentrer dans l'hôpital et elle fait barrière. Y a par exemple ces scènes où on lui dit « est-ce qu'on appelle la police ?» Ah non, on n'appelle pas la police, les agents de sécurité à la rigueur. Il faut se battre contre l'extérieur aussi.
Oui. Pour essayer de gagner la confiance de cette mère. Elle ressent que tout ce pôle risque de briser la confiance qu'elle est en train d'installer avec cette mère.
La grande question du film, Laura Vandel, c'est quel est l'intérêt de l'enfant, l'intérêt d'Adam? C'est le titre de ce film. À quel moment le séparer de sa mère? Ça, c'est central dans les services pédiatriques. C'est une question essentielle?
Oui, c'est une question essentielle et très compliqué en fait. Donc, mais à nouveau, le film ne veut pas y répondre.
Il y a cette volonté de pas trop s'avancer, de pas donner trop de clés, de laisser le spectateur finalement apporter ses propres réponses.
Oui, exactement. Ça, c'est très important pour moi. C'est une manière de faire participer le spectateur et qu'il puisse s'investir.
Je le disais en introduction, il y a un côté rassurant dans votre film parce que finalement. Les institutions, que ce soit l'hôpital ou la justice, parce que la justice doit trancher à un moment de savoir si cet enfant peut rester ou pas avec sa mère, elles sont là et elles jouent leur rôle.
Elles jouent le rôle. C'est vrai que c'était aussi tout un travail d'investigation. J'ai aussi rencontré notamment une juge de la protection de la jeunesse, des délégués. Donc, délégués en Belgique, c'est les assistants sociaux qui sont entre la juge et le parent et qui sont là, en fait, pour faire des rapports qui vont être déterminants. Mais c'est vrai que la grande différence avec le personnel soignant et notamment Lucie, l'infirmière, c'est qu'ils ne sont pas sur le terrain. Lucie, elle est vraiment au contact de l'enfant et elle sait que ce qui est important pour cette mère, c'est la personne qui est directement en contact avec son enfant.
Mais il y a des limites aussi à être sur le terrain. Et on voit qu'un regard extérieur, parfois, permet d'apporter d'autres choses et un cadre aussi qui peut manquer à quelqu'un qui peut-être va être débordé par une situation et aussi par ses émotions, parce qu'elle a beaucoup d'émotions qu'elle exprime, Lucie.
Elle a beaucoup d'émotions qu'elle exprime, mais en même temps, à ce moment-là, dans sa vie, c'est aussi une révolte par rapport à un système qu'elle trouve qui commence à devenir obsolète, justement, par rapport à l'humain. Et je m'imagine que ce n'est pas la première fois qu'elle se retrouve face à cette situation. Et cette manière de réagir si fort à ce moment-là dans sa vie, c'est une manière de dire stop.
Il y a beaucoup de films, d'œuvres de fiction qui sont inspirées de ce qui se passe à l'hôpital et qui bien souvent abordent la question sous l'angle du surmenage, du manque de moyens des hôpitaux. C'est quelque chose qui transparaît dans le film, j'allais dire en pointillé, mais ça n'est pas le sujet principal du film. Est-ce que c'était pour vous un parti pris, une volonté ?
Oui, ma volonté, c'était vraiment de faire ressentir cette lutte à travers la mise en scène, effectivement. C'est cette manière de la suivre de dos, d'être tout le temps avec elle, entre ses portes qui claquent, le hors-champ aussi, le son. C'est une manière pour moi, je reparle à nouveau du spectateur, c'est très important pour moi, mais de le faire participer et de faire ressentir son épuisement par la mise en scène.
Et on retrouvera une filiation avec d'autres réalisateurs belges, je pense aux frères Dardenne, notamment dans votre réalisation, Laura Vandel. Dernière question, est-ce que vous êtes sorti, alors moi je suis sorti du film plutôt rassuré, mais est-ce que vous êtes sorti plutôt rassuré de votre immersion à l'hôpital, de vos échanges avec les services de justice sur la prise en charge de ces enfants quand ils sont les plus en difficulté, et c'est le cas d'Adam dans ce service pédiatrique.
Mais c'est oui, il y a une lutte en tout cas pour effectivement pour veiller au bien-être de l'enfant. Maintenant, je pense qu'il y a des choses qui doivent continuer à bouger, et c'est d'ailleurs pour ça aussi que je fais ce film. Mais voilà, les choses sont en route.
Merci Laura Vandel d'avoir été avec nous.
Merci
dans
vous.
Ce 13-14 aujourd'hui. Le film s'intitule L'intérêt d'Adam et je vous le recommande très fortement. 13h45 sur Inter. Une semaine dans leur vie, c'est notre feuilleton sur les traces d'Ousmane Dembélé par ceux qui l'ont côtoyé. L'attaquant du Paris Saint-Germain est en lice pour le Ballon d'Or, c'est le trophée de meilleur joueur de football au monde. Il sera décerné lundi prochain. Alors Ousmane Dembélé, très tôt, était promis un grand avenir, mais il est arrivé au sommet plus tard que d'autres, à l'âge de 28 ans, après un parcours chaotique. Dans cet épisode 3, Didier Deschamps, mais aussi l'homme qui s'occupe du corps du joueur avec les Bleus.
Être un très bon joueur de foot, c'est pas simplement taper dans un ballon et puis aller s'entraîner. C'est aussi faire preuve d'une abnégation au niveau mental tous les jours. Tous les jours, il faut remettre le bleu de chauffe. Tous les jours, il faut aller se préparer dans la salle. Tous les jours, il faut aller à l'entraînement. Après l'entraînement, il faut prendre soin de soi. Et c'est ce que Ousmane a très bien fait. Il a mis toutes ses petites briques les unes après les autres. Il a construit sa petite maison, sa petite façon de faire, qui fait qu'aujourd'hui, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Et j'espère pour lui qu'il aura le Ballon d'Or parce qu'il le mérite amplement. Cyril Moine, préparateur physique de l'équipe de France depuis août 2019. On ne se rend pas compte du talent du joueur dans l'aspect motivationnel et dans l'aspect mental tout simplement.
Ousmane, une petite crevette, c'est tout ce qu'on peut en dire au départ. Christian Lecoq, moi je suis médecin au Stade Rennais depuis 28 ans. Ils vont côtoyer des joueurs qui font 1m80, même à 15 ans. Je pense qu'il était plutôt près des 1m60. Non, c'était un petit gabarit.
Et est-ce qu'au début, vous vous dites son gabarit de crevette, comme vous dites, ça va poser problème?
Au départ, non, parce qu'on se dit il va se construire musculairement. C'est pas devenu un monstre, un adepte de la muscu à outrance. Hein, mais il avait autre chose.
Moustapha, vous qui avez suivi Ousmane dans tous ses clubs, comment est-ce qu'il a vécu ces blessures qui l'ont éloigné des terrains plusieurs fois et à chaque fois pendant plusieurs mois?
Après toutes les blessures qu'il a eues, généralement, il devait faire les tests, savoir la nature de la blessure, etc. Et généralement, quand on avait la mauvaise nouvelle sur le retour, la phrase qui revenait toujours, c'était qu'après la pluie, il allait avoir le beau temps. Il y a eu quand même de la déception, parce que c'est ce qu'il aime faire, jouer au football. Ça lui tenait à cœur de bien faire pour le FC Barcelone, mais il a toujours gardé le sourire.
Quand il revient ici, à Paris, au campus PSG, qui est presque chez lui, on n'est pas loin d'Evreux, il vous retrouve ici, Lucas Hernandez, vous qui êtes son coéquipier en équipe de France, et vous assistez donc à cette saison magistrale, la saison dernière, qui va le mener au sacre en Ligue des Champions.
Ça a été un leader, sur le terrain et en dehors du terrain. Dans les moments plus compliqués, surtout en début de saison, que tout le monde peut-être nous critiquait, ou ils n'étaient pas derrière nous. Ousmane, il a pris l'équipe avec lui. C'était un moment compliqué, on ne marquait pas de but, mais lui était confiant qu'une fois qu'on marquait un but, après ça allait être comme du beurre, ça allait rentrer tout facilement. On l'a suivi. Je pense qu'il a fait la meilleure saison de sa carrière. C'est pour ça que voilà, on a gagné 5 titres cette année, et c'est grâce à lui, bien sûr.
Cette carrière en dents de scie, c'est aussi ce qui le rend attachant, finalement, Ousmane Dembélé. Pour vous, Didier Deschamps, son sélectionneur?
Il y a certains qui ont des parcours classiques,
Mais il y en a d'autres, heureusement. Ça laisse le rêve permis à d'autres qui ont un départ peut-être pas classique, mais qui arrivent au plus haut niveau. De par ce qu'il fait, c'est tout le mal que je lui souhaite. Et j'espère qu'il pourra être récompensé individuellement.
Suspense, everyone.
Vainqueur du Ballon d'Or France Football.
Il mérite d'avoir cette récompense.
Paris Saint-Germain qui fait son retour en Ligue des Champions ce soir face à Bergame. Emma Sarango pour ce feuilleton, réalisation Vincent Godard.
France Inter, le 13-14.
C'est la France, le mercredi 13h49, le regard d'Éric Fotorino du 1 Hebdo. Et aujourd'hui, Éric, vous nous parlez d'un phénomène qui a submergé Nantes ces dernières semaines.
Et oui, Jérôme, c'est une vague qui a déferlé pendant un peu plus de 2 mois au château des Ducs de Bretagne. Une vague de visiteurs venus de Nantes et bien au-delà pour découvrir une autre vague très célèbre, la vague dite Kanagawa ou vague d'Okusai, du nom de l'œuvre majeure du maître de l'estampe japonaise et immense peintre Okusai. Cette estampe, une des premières peintes au bleu de Prusse en 1830, représente une vague impressionnante qui semble avaler une embarcation de pêcheurs devant le mont Fuji impassible. Si la représentation de Kusai est de taille assez modeste, 28 cm de haut pour 36 de large, elle continue de produire un immense effet sur tous ceux et celles qui viennent la découvrir. Preuve s'il en est, le personnel du musée nantais a dû déployer des trésors d'énergie pour satisfaire les foules qui se sont massées cet été à l'entrée de l'exposition. Il a fallu multiplier les nocturnes pour faire entrer des visiteurs qui avaient parfois attendu 8 heures, même sous la pluie.
8 heures,
dans l'espoir de s'immerger dans cette féerie d'écume. Les gens étaient heureux d'avoir attendu pour rentrer et heureux d'en sortir après ce qu'ils avaient vu, témoigne le directeur du musée d'histoire de Nantes, Bertrand Guillet.
Mais précisément, Éric, qu'ont-ils vu de si fascinant?
Alors pour Bertrand Guillet, qui connaît bien son public, ce sont, si j'ose dire, 3 vagues qui se sont succédées devant la vague. Le gros de la première était composé de connaisseurs qui ont pris toutes les réservations d'emblée pour assouvir leur appétence pour le Japon. La deuxième vague de visiteurs, non moins importante, est venue de tous ceux qui en avaient entendu parler, qui voulaient absolument voir cette œuvre, même s'ils ne connaissaient rien au Japon. C'était the place to be pour faire un selfie et dire « j'y étais », une sorte d'engouement irrationnel et viral portée par les réseaux sociaux.
Et on en vient à la troisième vague.
Et oui, sans doute la plus intéressante, la plus originale, pour ne pas dire la plus réconfortante. De nombreux visiteurs sont venus pour l'univers zen qu'ils espéraient y trouver. Et ils n'ont pas été déçus. Comme l'écrivait Baudelaire dans sa fameuse invitation au voyage, tout était ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Une bulle d'oxygène inespérée dans ce monde anxiogène. Beaucoup sont repartis avec ce sentiment d'apaisement qu'offre la confrontation au beau. Et le catalogue de 500 pages titré « La vague Okusai » est déjà en réimpression. Il faut dire, Jérôme, que près de 150 000 visiteurs sont venus admirer ce spectacle unique où l'eau, les plantes, les animaux, les paysages composent une nature dont l'homme fait partie, avec une place privilégiée réservée à la femme, une vision pourtant vieille de 2 siècles, une ode à la légèreté.
Il faudra peut-être consacrer un hebdo à Okusai.
Nous y pensons, il faut être patient, il arrive, après Miyazaki.
En attendant, à la une du hebdo cette semaine, Éric.
Pas vraiment la légèreté, Jérôme, mais au moment où la France s'apprête à reconnaître l'État palestinien, nous nous demandons s'il est encore temps. Je vous recommande le passionnant entretien avec l'historien Vincent Lemire, pour qui cette reconnaissance est insuffisante, et aussi le cri de l'écrivaine palestino-canadienne Yara El Gabdan, qui dénonce l'aveuglement très ancien des dirigeants et des médias occidentaux sur la condition des Palestiniens. Et comme toujours dans le 1, de la pédagogie, des cartes de la Palestine, de la fin du mandat britannique à nos jours. Bref, une petite encyclopédie pliée en 3 à lire en 1 heure.
C'est la France chaque mercredi avec Éric Fotorino. C'est une chanson, Frédéric Pommier, c'est un humoriste que l'on retrouve aujourd'hui à votre micro. Il s'appelle Léopold Lemarchand.
Il a commencé youtubeur et il est actuellement en tournée avec son premier seul en scène, sobrement intitulé Premier spectacle, spectacle qu'il jouera à partir du 26 septembre à l'Européen à Paris, et c'est un titre du rappeur DC's qu'il a souhaité que l'on écoute. La chanson s'appelle « Qu'ils ont de la chance ».
C'est un ami à moi qui me l'a fait découvrir cet été. Et en fait, ça m'a énormément marqué parce que c'est exactement ce que je voulais faire avec mon spectacle, qui donc parle de la mort avec légèreté et humour. Parce que moi, je suis effrayé par la mort depuis que je suis tout petit. Et le spectacle, c'est comme une sorte de catharsis. Je préfère en rire plutôt que d'en pleurer toute ma vie, quoi.
Cette chanson, c'est pas une chanson drôle.
C'est pas une chanson drôle, mais je la trouve assez optimiste. Elle nous raconte que quand un proche part, il ne faut pas sombrer dans le chagrin, parce que de là-haut, cette personne souhaiterait sûrement nous voir apaisés. Et quand nous-mêmes, on part, il faut se dire aussi qu'on quitte un monde qui est parfois un peu affreux. C'est voir le verre à moitié rempli avec la mort, ce qui est assez compliqué, mais il arrive à le faire dans le texte, Lou. Donc ça, c'est beau.
Comment je vais faire si je les perds? Comment ferait-il si je partais? Un jour je vais voir partir ma mère, ça je peux pas l'imaginer. On dit que ce sont des êtres chers, autant m'arracher la chair. Je voudrais me noyer dans les airs, je veux qu'on m'en ciel, pas commentaire. J'ai vu des proches perdre des proches, je pleurais de les voir pleurer. Leurs yeux s'éteignent comme des lampes torches, je vois la vie en accéléré. Ces corps qu'on pourra plus serrer, ces papiers de merde qu'il faut gérer. Franchement j'ai plus envie de rester, à quoi ça sert de faire semblant? J'ai plus envie de continuer, ou bien je vais le faire en titubant. Donc préviens-moi si tu meurs, j'aurais aimé qu'on soit du miel. Je regarde les oiseaux migrateurs faire des flash mobs dans le ciel, et j'y traduirai la grâce. Je m'accrocherai à ce que je pourrais, je m'en fous que tu sois dans l'espace. Je te préfère à mes côtés, je perds le fil, je perds le temps, car avec lui tout s'en va, passé, futur ou présent. Je voulais tout le temps être avec toi, moi. Je voudrais tout le temps être avec toi, moi. Ils ont de la chance d'avoir quitté ce monde. Bien sûr, ils nous manquent et ils nous manqueront. Mais qu'ils ont de la
chance. C'est en 2017 qu'est sorti ce morceau de This Is, Frédéric.
Un morceau sur la mort, cette mort qui obsède et fait tant peur à Léopold Le Marchand. J'ai essayé de savoir d'où lui venait cette obsession.
Je me souviens avoir vu un film qui s'appelle Le Petit Prince a dit. C'est ma mère qui me l'avait montré d'ailleurs. Et c'est une petite fille qui a mal à la tête et qui le dit à ses parents. Donc ses parents lui font passer des scanners. Et après les scanners, du coup, ils se rendent compte qu'elle a une tumeur au cerveau. Et à la fin du film, désolé les auditeurs, je vous spoil, mais elle meurt. Et donc moi, quand j'étais petit, à chaque fois que j'avais mal à la tête, évidemment, je me disais, je vais mourir. Et donc je pense que ça a créé un trauma. Donc à chaque fois que je tombais malade, je me disais, c'est fini pour moi. J'ai 39 de fièvre, donc au revoir maman. Merci pour tout.
En fait, c'est vraiment de votre mort que vous avez peur, plus que de la mort des autres.
Ouais, enfin ça dépend qui. Ma copine par exemple, quand elle va mourir, je me remettrai jamais, je pense que... Non.
Mais il vous arrive de penser à la mort de votre copine?
Ouais, bien sûr, tous les jours. Souvent dans les moments les plus joyeux. Là, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans un parc d'attractions que je ne vais pas citer, mais on était dans le manège tous les deux, donc c'était censé être un moment assez joyeux. Et c'était un manège avec une structure en bois. Et je me suis dit, pendant la descente, je la regardais, elle se prend une bûche là, à pleine vitesse, c'est la fin de ma vie, quoi. Parce que je vais devoir vivre avec ce trauma toute ma vie. Donc en fait, j'ai des pensées sombres comme ça, comme des flashs qui me viennent quasiment tous les jours, quoi. Et donc j'ai appris à vivre avec, quoi.
Les psys que vous avez rencontrés n'ont pas réussi à vous apaiser.
Visiblement, non.
Quand vous écoutez cette chanson de This Is, est-ce qu'elle vous fait du bien? Ou est-ce qu'elle vous donne encore plus peur?
En fait, ce que j'aime bien, c'est que le début me fait peur. Et puis, à partir du premier refrain, il calme un peu nos ardeurs. Et il se dit, quand les gens partent, parfois ça peut être vu de manière assez poétique, quoi. Mais l'interview, là, elle casse un peu le moral, là, non?
Elle est totalement déprimante.
Ah ouais. On va se relancer, Frédéric. This Is, qu'ils ont de la chance. C'était donc, Frédéric, le choix de l'humoriste Léopold Le Marchand.
Léopold
humoriste.
Le Marchand, très drôle.
Mais oui,
que vous pouvez
ça
voir
n'empêche pas, d'ailleurs.
Scène dans son premier spectacle, qui s'appelle Premier Spectacle. Ce sera notamment à partir du 26 septembre à l'Européen à Paris.
Merci Frédéric et à demain. Stéphanie Duncan et le fil de l'histoire, assure.